Nous avons chanté dans le cantique et aussi exprimé dans la prière que le Seigneur Jésus nous connaît et parfois il nous laisse traverser par des difficultés, avec le but que nous connaîtrons davantage le Seigneur Jésus. Et j'aimerais montrer peut-être deux personnes qui ont eu un état de cœur qui n'était pas en rapport avec les pensées de Dieu, où il y avait un problème. Mais ces personnes, ils ont eu une rencontre avec le Seigneur Jésus, avec Dieu. Et puis, il y avait des conséquences dans leur vie. Donc, le but, c'est d'avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus et que nous le connaissons davantage et qu'il y ait des conséquences dans notre vie. Peut-être nous pourrons commencer avec l'Épître aux Philippiens, chapitre 3. Là, il nous est parlé de Paul et de sa vie avant sa conversion. Philippiens 3, à partir du verset 4. Bien que moi j'ai de quoi avoir confiance même dans la chair, si quelqu'un autre s'imagine pouvoir se confier en la chair, moi davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des hébreux, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécutant l'assemblée, quant à la justice qui est par la loi étant sans reproche. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte, et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ. Et encore le verset 13. Frères, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tenant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Ici, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens. Après avoir été peut-être pendant 4 ans en prison, il écrit cette lettre aux Philippiens. Il parle beaucoup de la joie. Mais ici, dans ce passage que nous avons lu, il parle de sa chair. Et il parle des choses sur lesquelles il aurait pu être fier. Dans les versets 4 et 5, il parle de son origine. Il parle de sa formation, il parle de son zèle. Et il veut expliquer aux Philippiens, il dit, moi j'aurais pu être fier de tout ce que j'étais par nature, par origine, par tout ce que j'ai appris et que j'ai fait. Mais après il continue à expliquer et puis il dit au verset 7, il parle du moment de sa conversion. Quand le Seigneur Jésus est apparu, il avait une rencontre avec le Seigneur Jésus devant les portes de Damas, quand il y avait cette lumière et que cette lumière l'a jeté sur la terre. Alors, c'est clair, ici nous avons Paul devant nous quand il était encore un incrédule, mais peut-être nous pouvons aussi appliquer ces versets à nous qui sommes déjà croyants, parce que nous avons aussi le problème, la tendance peut-être, que nous sommes fiers de certaines choses. S'il est parlé ici de la chair, je vais encore faire cette remarque, s'il est parlé ici de la chair, nous pensons peut-être toujours la chair, c'est des mauvaises choses, des choses incorrectes ou immoral, mais la chair peut aussi se montrer d'une façon, on dirait presque positive, parce qu'un zèle, ce n'est pas négatif. d'avoir des origines ici hébreux, etc., ça, c'est pas forcément négatif. Mais le problème, tous ceux qui viennent de la chair, c'est rien pour Dieu. Dieu peut rien commencer et accepter de tous ceux qui viennent de la chair, même si la chair se montre de son bon côté, on pourrait dire. Et peut-être, comme croyants, nous pourrions aussi être fiers de notre nom de famille. Peut-être nos parents, nos grands-parents, ils étaient dans le rassemblement, ils ont peut-être joué un grand rôle dans le rassemblement, on ne sait pas. Peut-être on est fiers de ça. Peut-être on est fiers de notre formation, de notre intelligence. Peut-être nous sommes fiers de notre zèle dans le service pour le Seigneur. Alors, l'apôtre Paul, il dit maintenant, tous ceux qui étaient un gain pour moi, parce qu'il estimait ça comme un gain, ces choses sur lesquelles il était fier. Mais maintenant, ce qui est intéressant, il dit, dans la lumière, dans la splendeur du Seigneur Jésus, glorifié dans le ciel, qui est apparu dans cette lumière, tous ceux qui étaient un gain pour lui étaient en même temps une perte. C'est-à-dire tous ceux qui étaient dans ses yeux positifs, c'était négatif, c'était une perte. Une perte, ce n'est pas zéro. Une perte, c'est négatif. C'est comme un bilan, on a 1 000 euros, alors on met un moins devant, ce n'est pas zéro, c'est moins, c'est une perte. Alors, avec d'autres termes, ce qu'il dit ici, c'est tout ce sur des choses que j'étais fier. C'est en fait un obstacle pour mieux, pour gagner Christ. C'est négatif. C'est pas zéro. Ça c'est important. Alors, le verset 7 nous parle de la conversion, de la rencontre qu'il avait avec la personne du Seigneur Jésus. Cette lumière qu'il a vu, c'était le Seigneur Jésus lui-même, et puis il a entendu une voix, Paul, qui persécutes-tu? Mais il a persécuté l'assemblée, mais en même temps, il a persécuté le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est la tête, le chef de son assemblée. Il est tellement lié à son assemblée que Paul avait en fait persécuté le Seigneur Jésus. Et maintenant, au verset 8, il ne parle plus de sa conversion, il parle du moment où il a écrit cette lettre. Et puis c'était environ 25 ans plus tard, après sa conversion. Peut-être 27, je ne sais pas exactement, mais quelques années plus tard. Et puis après ces 25 ans, il dit la même chose. Je regarde même aussi toute chose comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Donc, ce n'était pas seulement un moment, quand il a vu cette lumière, qu'il était flashé, et puis après, ça a refroidi gentiment. Non, au contraire, 25 ans plus tard, il dit, il estime toujours tout ce où il était fier avant, sur des choses de la chair, il estime tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas seulement cette rencontre une fois avant Damas, non, il avait continué d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus. Et parce que cette lumière est toujours devenue plus éclair, plus grand pour lui, le Seigneur Jésus est toujours devenu plus grand pour lui, c'est pour ça. Il a tout estimé comme une perte et il va encore plus loin. Il dit après, comme des ordures. Et nous savons bien que nous ne voulons jamais avoir quelque chose à faire avec les ordures. Moi, je suis agriculteur. On a du bétail à la maison, on a des machines à la maison. Et à la fin de l'année, on nettoie toujours les machines avant l'hiver. Et quand je nettoie avec haute pression une machine, bah, ça gicle dans tous les sens. Et avant que je vais dîner, je regarde au miroir et je vois mon visage est plein de terre. Alors qu'est-ce que je fais? Je nettoie tout de suite mon visage avant de manger parce que je ne veux plus rien avoir à faire avec la terre, avec des ordures. Et là, alors ça c'est l'image que nous devons avoir devant nos yeux quand il parle ici. Et puis il dit, à côté de l'excellence de la personne du Seigneur Jésus, toutes les autres choses sont une perte, sont des ordures. Je ne veux rien avoir avec ces choses. Alors nous voyons avec comment il a estimé le Seigneur Jésus dans sa vie. Parce que plus rien à côté, toutes les autres choses à côté, c'était rien du tout. C'était même des ordures avec lesquelles il ne voulait plus rien avoir à faire. Et nous pouvons nous demander comment c'est dans ma propre vie. Est-ce que je suis vraiment rempli du Seigneur Jésus? Ou bien il y a encore des choses dans ma vie, peut-être ils ne sont pas mauvais, ils ne sont même pas mondains, mais peut-être il y a dans mon cœur, dans ma chair, je suis fier justement de ma famille, de mon service, je suis occupé de moi. Ça c'est le problème quand on est occupé de soi-même. Et en fait il y a seulement deux conséquences quand on est occupé de soi-même. Soit on est fier parce qu'on croit avoir fait des choses bonnes pour le Seigneur, ou bien on est jaloux sur les autres parce qu'on se compare et puis on voit les autres, ils font mieux que moi. Alors s'occuper avec soi-même, c'est jamais bien. Un frère a dit une fois, la seule raison pour s'occuper de soi-même, c'est pour le jugement de soi. Ça, c'est la seule chose. Autrement, il ne faut pas s'occuper de soi-même parce que ça nous empêche à voir la grandeur et la beauté du Seigneur Jésus. Et vous savez, l'apôtre Paul n'a pas seulement écrit dans cette lettre ce qu'il a écrit, il a vécu. Et j'aimerais vous montrer que d'un côté, la lumière est devenu toujours plus grand. Parce que sa conversion nous est décrite trois fois dans les actes. La première fois en chapitre 9, et là il est parlé d'une lumière. Dans le chapitre 22, il raconte lui-même sa conversion, et puis il parle d'une grande lumière. Et puis ensuite, dans le chapitre 26, comment c'est écrit en français ? Au verset 13, en chemin, en plein midi, je vis au roi une lumière plus éclatante que la splendeur du soleil. Alors une lumière qui était plus éclatante que la splendeur du soleil. Nous voyons alors, il a raconté son histoire, sa conversion plusieurs fois, et avec son âge, avec le temps qu'il a vécu avec le Seigneur Jésus, la lumière est devenue toujours plus grande, plus claire, plus éclatante. Ça veut dire, le Seigneur Jésus, dans toute sa beauté, est devenu plus grand pour son cœur. Mais maintenant, en même temps, lui est devenu toujours plus petit. Si nous comparons les épîtres qu'il a écrits, je prends 1 Corinthiens 15, il se compare avec les apôtres. Et puis il dit, je suis le moindre des apôtres. Plus tard, il a écrit l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, au verset 8, il se compare avec tous les saints, il dit, je suis le moindre de tous les saints. Et ensuite, un peu deux ans plus tard, il a écrit la première épître de Timothée, dans chapitre 1, au verset 15, il dit, il se compare avec les pécheurs, et puis il dit, je suis le pire. Le premier. Alors, il est le premier, ça veut dire qu'il est le pire de tous les pécheurs. Alors, il se compare avec les apôtres, avec tous les saints, avec tous les pécheurs, et toujours, il est le moindre. Alors, si on compare cela, c'est extraordinaire. La lumière devient toujours plus éclatante, et en même temps, il diminue toujours dans son estimation. Et ça, c'est le but, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus prend toujours une plus grande place dans notre cœur. Et En fait, c'est un peu logique. Quand le Seigneur prend plus de place dans mon cœur, il y a moins de place pour moi-même. Alors, comment nous arrivons à mieux que le Seigneur Jésus grandisse dans mon cœur et que moi je diminue? Comment c'est possible? Paul, nous aussi, il a écrit là-dessus. J'aimerais lire le verset dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Le deuxième, second Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Or, nous tous, contemplant la face découverte, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Ici, il explique comment il est possible que le Seigneur Jésus devienne plus grand et que nous devenons plus petits, dans le sens que nous lui ressemblons davantage. Alors, la recette, si je peux dire ainsi, c'est de fixer les yeux sur le Seigneur Jésus. Et puis, la gloire du Seigneur Jésus ici, c'est la gloire du Seigneur, de Christ glorifié dans le ciel. Ça, c'est la gloire. Et si nous sommes fixés sur lui, c'est-à-dire si nous occupons avec le Seigneur Jésus, si nous lisons la parole, si nous voulons mieux apprendre à connaître le Seigneur Jésus, il se passe quelque chose avec nous. Nous serons transformés en son image. Peut-être nous constatons qu'il y a des choses dans ma vie qui sont pas, qui sont pas correctes, que je devrais changer. Alors, nous essayons à nous changer. Et si on essaye à nous changer, peut-être le comportement, on remarque après 2, 3 jours, on n'y arrive pas. Alors, on réessaye, et puis au début d'une année, on recommence à se changer. Mais il faut pas essayer, il faut arrêter à essayer de se changer extérieurement. Non, il faut se laisser transformer par le fait que nous sommes fixés sur le Seigneur Jésus et par la force du Saint-Esprit. Nous avons aussi ça à la fin du verset. Alors, vous voyez la différence? On peut essayer à se changer extérieurement par la propre force et nous y arriverons pas, jamais, mais on peut aussi se laisser transformer par le Seigneur Jésus, par l'Esprit Saint. Et si nous laissons nous transformer, ce mot transformer, nous avons 3 fois dans la Bible, non, ouais, 4 fois, 2 fois dans les Évangiles, quand le Seigneur Jésus a été sur la montagne transfiguré. Ce mot transfiguré et transformé sont les mêmes mots en grec. Alors nous avons en Marc et en Matthieu ce mot transfiguré. Mais, et puis ici encore une fois, et en Romains 12, verset 2, nous avons ce mot transformé. Et ce mot transformé, ça vient, je ne suis pas un expert, mais ça vient du mot métamorphose. Et peut-être nous connaissons ce mot parce que ce mot est pris quand une chaîne est transformée dans un papillon. Une chenille. Ah ouais, pardon. Une chenille. Alors, une chenille est transformée dans un papillon. Ça, c'est le mot qui est signifié ici, qui est mentionné ici. Alors, si on se compare maintenant avec une chenille n'a pas une vie très belle. Elle court comme ça, d'une feuille à l'autre, elle n'est pas très belle. Et des fois, notre vie spirituelle ressemble à celle d'une chenille parce que nous ressentons peut-être que la vie chrétienne est avec pression, c'est lourd, on n'y arrive pas, on n'avance pas, et puis ça ne nous fait pas beaucoup de plaisir. Mais si on compare maintenant une vie d'un papillon avec celle d'une chenille, c'est tout différent. Un papillon, il peut voler, il est beaucoup plus beau, et ça, c'est le but, que nous soyons transformés dans l'image du Seigneur Jésus, que nous lui ressemblons davantage, que dans ma vie, dans ta vie, il est vu quelque chose du Seigneur Jésus. Et ça arrive seulement quand nous sommes en communion avec le Fils, le Seigneur Jésus glorifié dans le ciel. Et ainsi nous serons transformés en la même image, de gloire en gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, de gloire en gloire? Il y a peut-être deux significations. Peut-être on peut comprendre de gloire, c'est-à-dire de la gloire du Seigneur Jésus dans le ciel, en gloire, c'est-à-dire dans la gloire dans ma vie. Donc, il de sa gloire dans le ciel, il est vu quelque chose dans ma vie, ici-bas, de sa gloire. Mais de gloire en gloire, ça peut aussi signifie peut-être aussi d'une gloire à l'autre. Nous ne pouvons pas... cette transformation est un croissement. Ça ne vient pas d'un jour à l'autre. Ça ne fait pas des sauts. Non, c'est d'une gloire à l'autre. Un jour après l'autre, nous sommes transformés dans l'image du Seigneur Jésus. Alors nous voyons, l'apôtre Paul, il a vécu cela. Il était une jeunie, on peut dire, avant sa conversion, et après il était un papillon. Il a resplendi quelque chose du Seigneur Jésus, de sa gloire dans sa vie. Et on retourne aux Philippiens, chapitre 3, et quand il dit au verset 13, « Frères, pour moi, je ne pense moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière. » Ces choses qui sont derrière, je pense, il parle justement de ces choses avant sa conversion, de ce qu'il a parlé dans les versets 4 et 5, mais je pense qu'il parle aussi de ces choses depuis sa conversion jusqu'à ce qu'il a écrit cette lettre. Parce que si on pense à l'apôtre Paul, combien de personnes, des milliers de personnes se sont converties à travers son service? Combien de rassemblements ont été créés par son service? Alors, il aurait pu être fier de ce qu'il a fait pour le Seigneur. Mais il dit, j'oublie toute chose. Tout ce qui est en rapport avec ma chair, avec ma fierté, je ne veux rien avoir. Et puis, je ne sais pas, oubliant, ça veut dire, c'est pas, il oublie une fois. Non, oubliant, c'est il est toujours en train d'oublier parce qu'il ne veut pas qu'il y ait quelque chose sur quoi il pourrait être fier. Non, il oubliant les choses qui sont derrière, mais il fait une chose, il regarde en avant, au but. Et le but, c'est le Seigneur Jésus. C'est intéressant, ce mot « je cours droit au but », ce mot « courir », c'est le même mot au verset 6, quand il est parlé de son zèle, comme il a persécuté l'assemblée. Donc, courir et persécuter sont le même mot dans l'origine. Donc, avec le même zèle, comme il a persécuté l'assemblée, il court maintenant droit au but. Mais l'apôtre Paul, comment tu veux courir quand tu es en prison? Comment il faut comprendre cela? Il ne pouvait plus rien faire. Il était emprisonné, mais il parle de courir. Et là, nous apprenons que courir, ce n'est pas une chose avec nos pieds. Peut-être nous pensons, si nous sommes très actifs pour le Seigneur, là nous sommes des bons chrétiens. C'est clair, le Seigneur, il aimerait notre service, chacun à sa place. Mais courir, on peut aussi dans nos cœurs. Et il avait fixé les yeux sur le Seigneur Jésus avec un zèle qui est vraiment impressionnant. Il courait droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Il avait un seul but dans sa vie, c'était Christ Jésus. Et nous avons sur notre domaine, à la maison, on a trois chats. Et puis jusqu'à un certain temps, on avait aussi un chien. Mon frère avait un chien. Et parfois, le chien a persécuté un chat. il a couru derrière un chat. Et si on a observé cela, bah le chien n'a pas regardé en arrière, il n'a pas regardé à droite, il n'a pas regardé à gauche. Non, il avait un but, c'était le chat. Et parfois, nous regardons en arrière. Nous pensons à nous-mêmes de ce qu'on a fait faux, de ce qu'on a fait bien. Mais l'apôtre Paul, il dit non, je ne regarde pas derrière. Il n'a pas regardé à droite, peut-être les circonstances. Il n'a pas regardé à gauche, peut-être les frères et sœurs. Non, il avait un seul but, c'est Christ dans la gloire. Et ça a commencé avec une rencontre avec le Seigneur Jésus à Damas, mais c'est resté toute sa vie. La lumière est devenue plus éclatante, lui est devenu plus petit, et finalement, il avait un but, c'est Christ dans la gloire. Et ça, c'est aussi pour nous, peut-être, quelque chose que nous puissions mieux, plus nous occuper avec le Seigneur Jésus, afin qu'il devienne plus grand pour nos cœurs. Peut-être encore une deuxième personne qui avait aussi une rencontre, c'est Anne, en 1 Samuel. Il y a encore bien des autres personnes, mais j'aimerais encore montrer une femme dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, nous lisons d'abord dans le chapitre 2, au verset 1er, « Et Anne pria et dit, « Mon cœur s'égaie en l'Éternel, ma corne est élevée en l'Éternel, ma bouche s'ouvre sur mes ennemis, car je me réjouis en ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, car il n'y a point d'autre comme toi, et il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles hautaines, que l'insolence ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu de connaissance, et par lui les actions sont pesées. » Ici, nous avons Anne qui prie, et puis elle dit quelque chose très, très intéressant. Elle parle, au verset 3, du Dieu de connaissance. Cette expression, nous n'avons qu'une fois dans la parole de Dieu, que Dieu ait mentionné le Dieu de connaissance. Et maintenant, nous aimerions contempler pourquoi elle parle comme ça de Dieu. Et j'aimerais faire cela en rapport avec le premier chapitre, parce que dans le premier chapitre, je pense, la plupart de nous, nous connaissons un peu cette histoire. Nous avons Anne en relation avec trois personnes, et ces trois personnes étaient en fait un problème pour elle. Elle avait alors des difficultés dans son entourage. Mais finalement, nous verrons qu'elle avait une rencontre avec Dieu dans la prière, et ça lui a transformé dans le sens, il y avait des conséquences dans leur vie. Elle a appris à connaître Dieu d'une manière comme peut-être personne d'autre. Donc la première personne en rapport avec Anne dans le premier chapitre, c'était Peninnah. Ça, c'était l'autre femme d'Elkanah. Elkanah avait deux femmes, Anne et Peninnah. Peninnah avait des enfants, Anne n'avait pas d'enfants. Et au verset 7 du premier chapitre, nous lisons, « Et Elkanah faisait ainsi d'année en année, c'est-à-dire qu'il montait à Silo pour adorer. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Peninnah la chagrinait ainsi, et elle pleurait et ne mangeait pas. » Alors, dans la situation, alors ils sont montés à la maison de l'Éternel, c'est-à-dire on l'applique maintenant au rassemblement. Peninnah la chagrinait, la blessait de cœur. Alors peut-être nous avons déjà vécu cela, en rapport aussi avec les frères et sœurs, que quelqu'un nous a chagrinés, que nous a blessés peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on est blessé par quelqu'un, si quelqu'un est contre nous, et surtout c'était encore en relation avec la maison de l'Éternel. Mais nous voyons que Anne n'est pas restée à la maison. Elle est quand même allée régulièrement avec son mari dans la maison de l'Éternel. Plus tard, elle a enfanté un enfant. Elle est restée à la maison jusqu'à ce que le bébé était allaité. Jusqu'à la fin, au verset 22, « Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, « J'attendrai jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. » Voilà. Alors, il y avait des raisons pourquoi elle restait à la maison. Mais là, elle ne restait pas à cause des blessures de Pénina. Elle ne restait pas à la maison. Mais c'était tellement grave qu'elle ne mangeait plus. Nous voyons plus tard, elle pleurait aussi. Oui, elle pleurait, elle ne mangeait pas. Elle était amère. Elle parle de, au verset 10, elle avait l'amertume dans l'âme. Nous voyons alors cette femme qui n'avait déjà pas d'enfant, elle était en plus chagrinée par Pénina. J'espère pas que nous blessons les uns les autres dans le rassemblement, mais peut-être ça arrive que quelqu'un dit une parole, un mot, et qui nous blesse, et l'autre il remarque même pas, ça peut arriver. Mais la question c'est, qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes blessés? Nous verrons, elle va dans la prière. Mais avant, on a encore une autre personne dans son entourage, et c'est son mari, Elkana. Et nous lisons au verset 8, « Et Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Et pourquoi ton cœur est-il chagrin? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Il faut commencer par le positif. Elkana, il aima sa femme. Je crois que nous trouvons seulement trois hommes dans l'Écriture où on lit qu'ils aimaient leur femme. En plus, le Seigneur Jésus, prophétiquement, le serviteur, j'aime ma femme. Mais autrement, il y a je crois, c'est Isaac, Jacob et Elkana, où il est écrit qu'ils aimaient leur femme. Alors ça, c'est très positif. En plus, ici, il remarque que sa femme ne va pas bien. Des fois, nous, les maris, sont tellement, nous voyons souvent pas comment est notre état intérieur de nos femmes. Alors, au moins, Elkana, il a vu qu'elle va pas bien. Ça, c'est positif. Et là, il pose d'abord 3 questions. Pourquoi? 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 Alors, il demande des questions et c'est positif. Mais dans ces questions, on remarque quand même qu'il ne pouvait pas lui aider. Et dans la dernière question, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? On remarque que ça, ce n'était pas la réponse. Ça, ce n'était pas la solution qu'il lui fallait. Ça ne lui a rien du tout aidé. Alors, on résume, Elkana, il a vu qu'elle ne va pas bien, mais il ne pouvait pas lui aider. Et puis, on a une troisième personne, et ça, c'est Élie, le souverain sacrificateur. C'était, on peut dire, la personne la plus importante à l'époque dans le peuple d'Israël. Et comme elle priait devant Dieu, au verset 12, « Et il arriva que comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observa sa bouche et Anne parlait dans son cœur. Ses lèvres seulement remuaient, mais on n'entendait pas sa voix, et Élie pensa qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre ?» Alors, en plus de ce qu'elle a vécu, que Pénina la chagrinait, en plus, Elkana qui ne lui pouvait pas aider, il y avait encore le souverain sacrificateur qui lui a en fait supposé des mauvaises motivations, des mauvais motifs. Il a observé, mais ce qu'il conclut, c'est complètement faux. Alors, je ne sais pas si on peut s'imaginer l'état de cette sœur. Elle était complètement désespérée, complètement par terre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. Et quand nous lisons comme elle a prié, elle est humble, elle parle qu'elle est une servante, elle prie avec persévérance, elle prie vraiment avec beaucoup de foi. Et à la fin du verset 15, il nous est dit, je répandais mon âme devant l'Éternel. Alors elle a prié sans réserve. Elle a vraiment jeté son cœur devant l'Éternel. Et je suis persuadé que si nous sommes blessés, si nous sommes mal compris, si peut-être quelqu'un parle des choses sur nous qui ne sont même pas vraies, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'aller dans la présence du Seigneur Jésus, dans la prière, et de tout lui dire. Peut-être il n'y a personne qui te comprend, mais le Seigneur Jésus, il te comprend. Et maintenant, j'aimerais encore dire quelque chose sur les conséquences, sur les résultats de cette prière. Au verset 18, nous lisons, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, c'est Élie qui dit, et la femme s'en alla son chemin, et elle mangea, et elle n'eut plus le même visage. C'est très intéressant. Nous avons lu de son amertume d'âme, elle était amère. Mais maintenant, après la prière, elle n'avait plus le même visage. La situation est restée la même, elle n'avait pas d'enfant. Mais elle avait le visage changé. Et là, nous voyons dans la prière, dans la communion avec notre Dieu, avec le Seigneur, nous sommes transformés. Nous, ça nous aide, ça change nous-mêmes. Peut-être ça ne change pas les circonstances, mais ça change nous-mêmes. Une deuxième conséquence au verset 20. Et il arriva que quand les jours furent révolue, Anne ayant conçu, enfanta un fils. Elle appela son nom Samuel. Alors là, nous voyons que Dieu, il peut aussi changer les circonstances, s'il veut. D'abord, il veut changer nous, mais il peut aussi changer les circonstances. Et là, il a donné un fils. Nous nous rappelons, Elkana lui pouvait pas aider. Mais ici, Dieu peut aider. Dieu peut changer les circonstances. Et ça, c'est en fait ces deux choses. D'abord, que nous sommes changés, mais aussi que Dieu peut changer les circonstances. Nous trouvons aussi en Hébreux 4, j'aimerais encore lire ce verset. Hébreux 4, au verset 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Alors il peut y arriver que nous prions, mais le Seigneur, il nous dit, il nous donne, ou bien nous recevons miséricorde. Recevoir miséricorde, ça signifie qu'il change les circonstances. C'est comme Job. En Jacques 5, nous lisons cela, il a reçu miséricorde. Miséricorde, c'est-à-dire Dieu voit notre misère et il change les circonstances et ainsi nous aurons plus ces problèmes. Ça, c'est recevoir miséricorde. Mais il peut y arriver que nous prions et Dieu nous dit, tu trouves la grâce. Ce n'est pas recevoir la grâce, c'est trouver la grâce. Ce n'est pas la même chose. Alors nous recevons miséricorde, Dieu change les circonstances, mais trouver grâce, c'est ce que nous trouvons chez Paul en 2 Corinthiens 12. Il a prié trois fois pour son, comment ça s'appelle? Écharde soit enlevée, et puis Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Donc son problème n'a pas été élevé, ôté, mais il a trouvé grâce. Vous voyez? D'abord, Anne a trouvé grâce, son visage a été changé, les circonstances pas encore, mais elle a trouvé grâce, elle a trouvé repos dans la prière. Mais après, Dieu lui a donné miséricorde, il a changé la situation, il lui a donné un fils. Et maintenant, la troisième conséquence, c'est le chapitre 2, 1 Samuel 2, c'est justement ce Dieu de connaissance. Nous avons vu que Élie n'a pas jugé juste, il l'a jugé faux. Mais le Dieu de connaissance, comme nous avons lu, par lui les actions sont pesées. Donc Dieu a exactement vu ce qu'il passe dans son cœur et Dieu a estimé tout juste. Il a pesé juste. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment grand. Nous savons, s'il n'y a personne qui nous comprend, peut-être nous sommes mal compris dans tout ce que nous faisons, mais nous savons qu'il y a un Dieu dans le ciel, le Seigneur Jésus. Il voit dans nos cœurs, il connaît nos circonstances, il connaît nos blessures, il connaît tout et il peut tout juste juger. Et pour terminer, un dernier verset en psaume 147, où nous trouvons un résumé de ce que Anne a vécu. Psaume 147, au verset 3, « C'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bandent leurs plaies, qui compte le nombre des étoiles, à elles toutes il donne des noms. Notre Seigneur est grand et d'une grande puissance, son intelligence est sans borne. » Nous avons exactement ce qu'on a trouvé chez Anne. Il a une intelligence sans borne. Il connaît même non seulement le nombre des étoiles, mais il a encore donné des noms à chaque étoile. Un si grand Dieu, et le même Dieu, il peut aussi guérir le cœur brisé. Il peut bander les plaies. Ça, c'est notre Dieu. C'est-à-dire, il connaît exactement ce qui se passe dans ton cœur. Et il bande afin qu'il puisse mieux guérir. Même peut-être il y a une cicatrice, mais le Seigneur Jésus s'en occupe. Il s'occupe de notre cœur. Et ce Dieu de toute-puissance, c'est le même Dieu qui a aussi la connaissance. Il voit tout, il connaît tout. Et nous désirons de vivre dans la communion avec le Seigneur Jésus, de tout lui rejeter nos cœurs, et afin que nous sommes transformés et qu'il devienne plus grand pour nous.